Cours d'éthique par le Père Dominique Philippe, le 10 janvier 2002 à Saint-Judas.
Il y a déjà un petit moment que nous n'avons pas continué cette recherche. Il est bien évident que dans l'éthique religieuse, le point principal qui modifie toute cette éthique, c'est l'adoration. On a vu ce qu'était l'adoration, mais l'adoration, c'est relativement simple à voir ce qu'elle est, mais l'adoration a des profondeurs successives. Je crois qu'on acquiert la vertu de religion assez vite. Un enfant, un jeune homme, si vous voulez, ou un garçon, acquiert vite le sens de l'adoration. C'est quelque chose qui s'acquiert assez facilement à cause de la transcendance de Dieu. On sait qu'on n'est rien. Mais on a de la peine à vivre vraiment de ce que représente véritablement l'adoration, c'est-à-dire reconnaître avec amour qu'on dépend totalement de Dieu quant à notre âme, que notre âme est créée directement par Dieu. Quand on est jeune, évidemment, on ne fait pas la distinction qu'on arrive à préciser exactement l'âme et le corps. C'est le corps de l'homme qui est la matière d'adoration grâce à l'âme. C'est par l'âme que nous adorons et que nous reconnaissons notre dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Il y a donc quelque chose qui grandit toujours. Le sens de Dieu, le sens du Créateur est quelque chose d'infini, hein, puisqu'il regarde Dieu. Et nous n'acquérons pas rapidement le sens de notre dépendance totale vis-à-vis de Dieu. On le sait, mais c'est de la connaissance pratique qu'il faut. Hein. C'est pas la connaissance théorique, c'est la connaissance pratique de notre dépendance radicale à l'égard de Dieu. Alors, la dépendance pratique actuelle dans notre vie, c'est évidemment quelque chose de très radical, très profond, qui s'acquiert lentement. Je crois que la vertu de religion est quelque chose qui s'acquiert lentement. On voit vite ce que c'est. On a vite adoré quand on a compris qu'on était dépendant de Dieu totalement. Mais la vertu de religion, elle a un enracinement en nous extrêmement profond. C'est la dépendance actuelle de notre âme à l'égard de l'acte créateur de Dieu. L'acte créateur de Dieu n'a pas de lendemain. Nous sommes nés à telle date, ça ne veut pas dire que c'est la date de la création de notre âme. Je ne sais pas quand mon âme a été créée par Dieu. Je ne sais pas. Alors, vous savez bien qu'il y a deux tendances aujourd'hui. Hein. Il y a une tendance de dire que Dieu a créé mon âme immédiatement au moment de la conception biologique. Et puis la tendance de saint Thomas, parce que les études biologiques peuvent me montrer la complexité de la formation de l'embryon. C'est vrai. Mais les études biologiques ne me font absolument pas comprendre ce qu'est la création de l'âme. La création de l'âme, je peux en avoir un certain sens au plan métaphysique. Et j'ai là, à ce moment-là, connaissance pratique et spéculative de l'acte créateur de Dieu sur moi. Je suis un être qui dépend actuellement de Dieu. C'est Dieu qui me maintient dans l'être. Dieu qui me maintient dans mon essence. Il me maintient à partir de mon âme qu'il garde. Il y a donc vraiment un effet qui dure dans le temps. Et mon âme a été créée à tel moment. Et je ne le sais pas. Je crois que c'est encore la position métaphysique, donc réelle, pas imaginative. Hein. Pas imaginative. Et puis, la tendance actuelle, c'est très en fonction de l'avortement. Alors, il faut pouvoir dire qu'il y a quelqu'un, il y a un être humain. Alors c'est pour ça qu'on dit dès le point de départ, le Saint-Père est très prudent dans son encyclique sur la vie. Donc l'Église ne dit rien et le philosophe ne peut pas le dire. Quand on regarde le développement de l'embryon, il est extrêmement difficile de préciser à quel moment l'âme a pu être créée. Pour saint Thomas, la virtus generativa est quand même une causalité propre à l'égard de la formation du corps. Et quand le corps est suffisamment développé, l'âme peut être créée. Tandis qu'il y a une position aujourd'hui qui veut dire que la création presque de l'âme est simultanée avec le point de vue de l'embryon, de l'œuf. Et ce qui serait pour saint Thomas contraire à la sagesse divine. Puisque la sagesse divine fait de l'âme la substance du corps, et pour être la substance du corps, il faut qu'il y ait quand même une certaine relation entre la formation du corps et l'âme. Autrement dit, au fond, je crois qu'au plan philosophique, on reste dans l'ignorance. On reconnaît que l'âme a été créée par Dieu. À quel moment? Cela demeure très difficile à préciser. La vertu, l'acte d'adoration, de toute façon, est après la naissance. pas que l'enfant dans le sein maternel exerce l'acte d'adoration. Si mon âme était créée à ce moment-là ou avant, elle est, on pourrait dire. Mais l'acte d'adoration présuppose la connaissance de la dépendance à l'égard du Créateur. Oh, cette dépendance, cette connaissance d'élévance ne se fait pas tout de suite. Elle se fait progressivement. Même si je n'ai pas l'évidence que mon âme est créée par Dieu, il y a un sentiment de dépendance en raison d'une certaine habitude de fragilité du petit être qui vient de naître. Et progressivement, il prend conscience qu'il est créé par Dieu. Et dans la mesure où il a conscience qu'il est créé par Dieu, il y a un acte d'adoration. L'acte d'adoration présuppose la conscience d'une dépendance à l'égard de Dieu. Et vous ne pouvez absolument pas préciser, je crois, votre premier acte d'adoration. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier acte d'adoration? Le premier acte d'adoration que vous avez fait, c'est dans votre prière, et si vous avez des parents et une mère chrétienne, c'est auprès d'elle que vous avez pris conscience de ça. Si vous n'aviez pas eu de parents chrétiens, c'est du reste très intéressant, parce que ça montre le rôle de la mère. Une mère chrétienne, c'est de faire le premier acte d'adoration pour son enfant. Et le faisant avec lui, même s'il est tout petit, tout jeune, progressivement, on prend conscience. Vous voyez, il n'a pas une connaissance spéculative de Dieu, hein. Il a une connaissance affective. Sa mère lui a appris ça. Et c'est très grand le rôle de la mère, parce que c'est son rôle d'être auprès du tout petit et de lui apprendre sa dignité. Vous apprenez votre... Quand vous êtes vous-même, dans la mesure où vous apprenez votre dépendance à l'égard de Dieu. Votre dépendance à l'égard de Dieu vous a éclairé sur ce que vous êtes vous. C'est très beau du reste que notre acte d'autonomie, nous l'avons acquis dans l'adoration. On essaie aujourd'hui, dans une laïcité poussée jusqu'au bout, de supprimer ce rôle maternel et de comprendre l'indépendance de l'enfant à l'égard de ses parents. Et c'est à l'égard de ses parents qu'il acquiert son autonomie. Oui. Alors, il est en retard. Parce que la première dépendance, ce n'est pas l'égard de nos parents, c'est l'égard de Dieu. La dépendance radicale. Et la vertu de religion, ce n'est pas la dépendance à l'égard de nos parents. À l'égard de nos parents, c'est une fausse, c'est une dépendance active de nos activités que nous ne pouvons pas faire tout nous-mêmes, nous avons besoin d'eux. Besoin d'être plus âgé que nous pour faire certaines choses, tandis que la dépendance à l'égard de Dieu était une dépendance adorer Dieu comme celui qui était le maître absolu, comme celui qui était notre créateur. Alors, évidemment, la première conception du créateur est très d'ordre pratique, d'ordre affectif, et pas du tout spéculative, c'est sûr, mais elle est pratique, donc affective. Et c'est vraiment connaissance de cette dépendance à l'égard de Dieu. Je crois qu'on a avantage à essayer d'étudier autant qu'on le peut ce premier acte d'adoration qui, je crois, est le premier acte de notre autonomie. Notre autonomie naît dans la dépendance à l'égard de Dieu. Dépendance et autonomie vont de pair, là. Alors que une laïcité poussée jusqu'au bout, celle qui existe en France, parce que c'est la laïcité la plus forte. Et on veut que cette laïcité devienne européenne. Mais c'est la laïcité la plus poussée. Alors, dans la laïcité, l'enfant acquiert son indépendance à l'égard de ses parents. On ne s'aperçoit pas qu'en faisant ça, on fait un retard. Les enfants éduqués dans la laïcité sont en retard. C'est le meilleur raisonnement du reste qu'on peut donner. Je me souviens de la réaction des radicaux socialistes du temps passé en France. Était très curieux pour ça. Parce qu'il leur restait traditionnellement quelque chose de chrétien. Alors, il y avait ce père radical socialiste qui était tout à fait d'accord que l'enfant soit baptisé. On lui disait, mais c'est pas du tout votre idée, si. Ça fait rien. Et il avait ce raisonnement. Je me souviens, ça m'est resté dans la tête parce que c'était. Il m'a dit, comme radical socialiste, je crois que c'est rien, c'est une pratique religieuse, oui. Mais c'est peut-être quelque chose. Si c'est quelque chose, je ne suis pas un bon père de le refuser à mon enfant. Et c'était en raison d'être un bon père qui faisait baptiser ses enfants. Son épouse était chrétienne, donc demandait le baptême des enfants, il disait, je ne peux pas m'opposer, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être. Et je trouvais que ce raisonnement était assez beau, parce que la générosité du Père, il dit, si c'est grand, s'il y a quelque chose, je n'ai pas le droit de le refuser à mon enfant. Alors, moi, personnellement, je ne le vois pas, mais c'est possible. Il y a des gens intelligents qui font baptiser leurs enfants. Et ils disent qu'il le faut parce que ça apporte à l'enfant quelque chose. Je peux vous montrer qu'au fond, la vertu de religion, elle naît, elle se réalise dans une attitude qui n'est pas précise. C'est une affectivité profonde, un sens de dépendance à l'égard de Dieu. Et on reconnaît cette dépendance à l'égard de Dieu pour reconnaître qu'on est dépendant de lui. âme est dépendante de lui. Et c'est quand même très important de voir que la morale religieuse naît dans cette attitude affective d'une dépendance à l'égard du Créateur, une dépendance d'amour à l'égard du Créateur, et qu'elle reste très confuse. Vous voyez la différence avec le point de vue moral actuel de la justice, d'une justice laïque, d'une justice indépendamment de Dieu. Je ne dépends pas de Dieu, mais je dépends de mon pays, de ma nation. Et j'ai un respect et donc une justice sociale qui se développe très fort. Et cette justice sociale est précise, parce que je peux savoir le degré de dépendance que j'ai à l'égard de ma famille, à l'égard de l'État, à l'égard de ce milieu qui m'enveloppe, qui m'entoure. Parce que là, il y a des personnes. Ça, on verra ça après, le point de vue de la justice. Mais je crois que c'est important de tout de suite se rappeler ça, que la vertu de religion naît dans l'affectivité la plus dépendante et en même temps la moins précise. Rien n'est précis dans ma dépendance à l'égard de Dieu, parce que je ne sais pas comment mon âme a été créée. Je sais qu'elle a été créée, c'est suffisant du fait qu'elle existe. Mais le degré de dépendance à l'égard de Dieu met longtemps à se préciser. Parce qu'il faut avoir un sens toujours plus précis de ce qu'est Dieu pour moi. Il est créateur. Et c'est le créateur que j'adore. Et c'est uniquement le créateur que j'adore. Je n'adore pas ma dépendance à l'égard de mes parents. Je la reconnais. Alors si Dieu n'existe plus, la dépendance à l'égard de mes parents devient l'absolue. Alors que si Dieu existe, la dépendance à l'égard des parents n'est pas l'absolue. C'est la circonstance particulière dans laquelle je suis né. Et cette circonstance particulière, c'est précise que les parents coopèrent à la création de l'âme et à l'égard de la dépendance de Dieu. Si Dieu n'existe plus, si Dieu n'existe pas, cette coopération n'existe pas. Donc, il y a une dépendance à l'égard des parents qui devient absolue. En ce sens-là, qu'un chrétien est plus vite autonome qu'un non-chrétien. Parce que la dépendance à l'égard de Dieu est beaucoup plus radicale, mais en même temps, elle apporte quelque chose par où nous sommes un être autonome, l'âme. Et c'est important de se rappeler ça, parce que c'est un argument extrêmement important quand on discute avec quelqu'un qui ne croit plus en l'existence de Dieu, ne croit plus en la création de l'âme. De mon montrer que la position chrétienne de la création de l'âme montre, ou la création, ou la position philosophique, hein, c'est la même. Dieu me crée mon âme librement, absolument librement. Il l'a créée en dépendance de l'action de mes parents, de l'action physiologique, humaine, biologique, de la formation du corps. Mais la création de l'âme reste indépendante, a quelque chose d'indépendant à l'égard de la formation matérielle du corps, ou physiologique, biologique du corps. L'âme a quelque chose qui détermine cette formation biologique et qui finalise aussi, parce que l'âme est à la fois cause de détermination formelle et cause finale. Par la détermination formelle, elle est cause finale. Elle me montre ce vers quoi mon intelligence peut atteindre et doit atteindre. La liberté de mon âme par rapport à mon corps. Je suis très dépendant de mon corps, mais cependant, à partir de cette dépendance, mon âme progressivement acquiert sa liberté. Alors ça, c'est le moment extrêmement difficile de voir à quel moment vous posez un acte humain libre. Est-ce que vous pouvez préciser le moment? C'est quand même quelque chose de très important. On a posé, je crois, génétiquement, un acte de dépendance à l'égard de Dieu, premier, où il n'y avait pas une liberté très déterminée. Ce premier acte demeure avant tout un acte qui reconnaît la toute-puissance de Dieu sur moi et qui en même temps reconnaît que cette toute-puissance de Dieu sur moi me donne une liberté par rapport aux autres. Être dépendant de Dieu directement par la création de l'âme me rend foncièrement indépendant des hommes. C'est un argument qui est très important à développer à l'égard de ceux qui refusent la création de l'âme, en leur montrant qu'ils ne seront jamais libres. Il y a quelque chose qui va très loin quand nous pouvons arriver à saisir que notre âme est créée par Dieu directement, au-delà de tous les contextes, au-delà de tous les milieux, au-delà de toutes les autres dépendances. Ceci nous permet de comprendre que par le fait même va naître en nous une liberté beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale. Parce qu'il vaut mieux dépendre de Dieu que des hommes. Dieu est magnanime, il est tout puissant. Et que les hommes ne le sont pas. Ils sont avares de leur puissance. Une mère tient toujours son enfant. Et le père tient toujours son enfant, il veut agir sur lui. Tandis que la dépendance à l'égard de Dieu, c'est-à-dire au fond, développer en nous la vertu de religion, développer en nous cette vertu c'est le fondement de notre liberté. Le fondement de l'acquisition de la liberté. Puisqu'on acquiert cette liberté. Elle ne vous est pas donnée comme une faculté. C'est une manière d'exercer notre volonté. D'exercer le lien de l'intelligence et de la volonté. Alors, on acquiert progressivement cette liberté. Et si on comprend, on essaie de saisir la profondeur de la dépendance de notre âme vis-à-vis de Dieu, nous donne un champ de liberté beaucoup plus profond qu'au contraire de voir qu'on n'est pas, il n'y a pas cette dépendance à l'égard de Dieu, et donc qu'on est libre. Mais on est dépendant de ses parents. Et la dépendance à l'égard des parents est beaucoup plus difficile à se libérer que la dépendance à l'égard de Dieu. Et je crois que ça, c'est très important pour ceux qui refusent l'existence de Dieu. Ça les touche directement, surtout quand ça touche la liberté. C'est le vieil adage. Il vaut mieux tomber dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes. Alors, appliquez-le pour cela, lorsqu'il s'agit de cette question de l'adoration. L'adoration, c'est tomber dans les mains de Dieu. Quand vous adorez, vous reconnaissez que vous voulez tomber dans les mains de Dieu. Eh bien, ça vous permet d'être beaucoup plus libre. Si vous suppriez ça, là vous tombez dans la dépendance de votre mère, ou la dépendance de votre père, la dépendance de votre mère quand vous êtes jeune, la dépendance de votre père quand vous êtes plus âgé. Eh bien, c'est toujours beaucoup plus tyrannique que la dépendance à l'égard de Dieu. Ça, c'est très important. L'acte d'adoration va avoir une répercussion directe sur ce que représentent nos relations à l'égard des autres hommes et à l'égard de notre mère et à l'égard de notre père, à l'égard de nos frères aînés, de nos sœurs aînées, à l'égard du milieu immédiat familial. Là, il y a quelque chose de très important à découvrir. L'éthique purement humaine se termine sur l'amitié. L'amitié est un acte d'amour humain recevant l'amour d'un autre homme, d'une autre personne humaine. L'amitié humainement a ceci de tout à fait particulier que c'est un acte où on coopère à deux. Je ne peux pas réaliser l'acte d'amitié tout seul. Réalise toujours à deux. Et c'est pour ça que c'est cela qui est le fondement de toute communauté. Toute communauté se fonde sur cet amour d'amitié. Que devient cet amour d'amitié à partir de l'adoration ? C'est, je crois, très important, étant donné que l'amour d'amitié finalise. C'est donc ma finalité, et la finalité joue un rôle premier, principal, dans toute éthique. Toute l'éthique est dépendante de la cause. causalité finale. Or, pour moi, ma causalité finale se réalise d'abord dans l'amitié. Donc, il est important d'essayer de voir comment l'amitié est changée par le point de vue de la vertu de religion. Il y a quelque chose qui modifie mon amitié intrinsèquement. Et c'est là où je réalise en premier lieu que mon acte d'adoration, mes actes d'adoration, transforment ma vie. Puisque, de fait, transforme mon amour d'amitié. Donc, transforme ma première relation de finalité. Alors, étudions les transformations. Premièrement, l'ami en face du Dieu créateur nécessairement n'est plus ma fin propre. L'amitié demeure une certaine finalité, un bien absolu pour moi, puisqu'il est personnel, mais il n'est pas mon bien absolu. L'ami ne peut pas rivaliser avec Dieu. Dieu, créateur de mon âme, par l'adoration, est reconnu comme l'absolu au point de départ et à la fin. Je ne sais pas comment cet amour de Dieu se transformera et sera transformé à la fin, mais ce qui est sûr, c'est que cet amour à l'égard de Dieu dans l'adoration relativise tout de suite l'amour d'amitié. L'amour d'amitié ne peut plus être ultime, ma fin ultime. Ça, c'est la première conséquence et une conséquence très importante. Ça a une répercussion sur tout le reste. Puisque l'amour d'amitié est quand même quelque chose de tout à fait fondamental et d'ultime. C'est par là que je me découvre moi-même dans ma propre personnalité. Et donc, dans l'éthique religieuse, je découvre ma personnalité premièrement dans l'adoration. Et l'amitié perd ce caractère d'être ma fin propre. On étudiera tous les autres caractères progressivement. C'est le premier caractère. L'amitié demeure, mais n'est plus fin ultime de l'homme.